Ce qui nous importe, c'est l'histoire, la grande, avec un H majuscule.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Juin-juillet 1944, l'offensive soviétique.
C'est une journée de triomphe national, de fierté. C'est notre pays qui a pourchassé les nazis jusqu'à leur repère et s'est assuré de leur défaite totale et définitive. Nous avons gagné au prix de millions de victimes et de terribles épreuves. Nous protégerons toujours cette vérité sacrée et nous ne permettrons à personne d'oublier ou de trahir les héros.
Не допустим предательства и забвения героев.
Président Poutine lui-même ne pas l'inviter, dit-on, au Quai d'Orsay, aux cérémonies commémoratives du débarquement, aurait été une insulte au peuple russe. En réalité, il n'y a qu'en 2004 que l'invitation de Poutine avait paru simple. Avant, au temps de l'affrontement des deux blocs, le D-Day était évidemment l'apanage des Occidentaux. Et l'habitude ne s'est jamais prise de le considérer au regard de ce qui se passait aussi sur le front Est. Or, le débarquement à l'ouest avait pour fonction de lier une main dans le dos des Allemands, puis la gigantesque offensive que lancent les Soviétiques le 22 juin de leur lier l'autre. C'est la combinaison des deux qui pouvait emporter la décision. Or, cette conjonction des deux efforts ne s'était pas faite sous le signe de la confiance. Londres et Washington craignaient l'extension du communisme en Europe et Moscou, une paix séparée entre Londres, Washington et Berlin. La présence en Normandie de Poutine, qu'on a pris soin de border par le nouveau président ukrainien, embarrasse les politiques parce qu'elle réveille cette méfiance profonde qui habitait la Grande Alliance. Jean Lepez, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Animateur de la vaillante revue Guerre et Histoire. Vous donnez régulièrement des livres sur la Seconde Guerre, notamment vu du côté soviétique, formidable biographie du maréchal Joukov, et puis tout récemment, aux éditions Economica, l'opération Bagration, la grande opération qui est lancée le 22-23 juin. On expliquera tout à l'heure l'origine du mot. Oui, il n'est pas de la famille, le président russe.
Non, bah il a, même pendant la guerre, cette grande alliance, cette étrange alliance du nom d'un bouquin célèbre, s'est faite sous le sceau d'une méfiance permanente. Permanente. Il y a eu quelques moments de grâce, mais toujours encadrés de soupçons, de reproches de la part de Staline, de méfiance, une méfiance terrible de la part de Churchill, et à la fin de sa vie, d'une grande méfiance du côté des Américains, et particulièrement du président Roosevelt.
Alors, donc, quelques mois avant le débarquement de juin 1944, est-ce que c'est un moment de grâce, une conférence assez tendue à certains moments, mais qui aboutit à un résultat, réuni à Téhéran? Donc novembre-décembre 1943, Roosevelt, Churchill et Staline qui se connaissent peu, ou dans le cas de Roosevelt et de Staline,
oui,
pas du tout.
Roosevelt et Staline ne sont jamais rencontrés, Churchill et Staline sont rencontrés une fois l'année précédente, en août 1942, c'est donc une grande première. Les trois dirigeants des trois grandes puissances en lutte contre l'Axe se retrouvent à l'ambassade soviétique de Téhéran, à l'entrée, à la fin de l'automne 1943.
Et Staline demande alors, qu'est-ce que vous allez faire, enfin ?
Voilà, Staline qui, depuis le premier jour de l'invasion allemande, réclame l'ouverture d'un second front en France, de façon à attirer vers l'ouest une partie des forces allemandes. Staline a été déçu à maintes reprises quant à l'ouverture de ce second front, qui a été promise en 1942, promesse non tenue, promise en 1943, promesse non tenue, et il va à Téhéran bien décidé à, cette fois-ci, obtenir un engagement ferme.
Churchill, il préférerait d'autres options que la Normandie.
Churchill, depuis 1941, se bat pour une stratégie indirecte et périphérique. Indirecte, il croit qu'en bombardant l'Allemagne, ça va casser le moral des Allemands, affaiblir leur outil économique, et périphérique, dans la mesure où ils croient surtout à des opérations en Méditerranée. Ce qui, pour les Russes, ne peut pas constituer autre chose qu'une piqûre de moustique sur le dos de l'éléphant germanique.
Oui, mais il sait aussi, Churchill, quelles sont les ambitions de Staline sur l'Europe centrale et la désorganisation des intérêts britanniques et occidentaux que cela va provoquer. L'opération que vous allez décrire en détail tout à l'heure, Jean Lepez, elle vise la Pologne avant de viser Berlin.
Le premier objectif, c'est de libérer ce qui reste du territoire soviétique occupé par les Allemands, c'est-à-dire les Pays-Baltes et la Biélorussie. Mais derrière, Staline prépare la création d'un glacis de protection pour l'après-guerre. Il essaie, attention, entendons-nous bien, pas d'erreur de chronologie, pas d'anachronisme. Il ne s'agit pas d'un glacis pour se protéger des Occidentaux. Il s'agit à l'époque d'un glacis pour se protéger d'une renaissance allemande que Staline juge inévitable dans les 10 à 20 ans. Donc il anticipe la prochaine guerre et il veut occuper les bases de départ de l'agression allemande de juin 1941, à savoir la Prusse orientale, la Pologne et la Roumanie.
Alors la Pologne et la Roumanie, il y a d'ailleurs une tentative
oui,
en
caché.
Roumanie, du côté oui. soviétique, pendant
caché par l'historiographie.
La période
oui,
qui
oui,
sépare Téhéran de la Normandie.
En avril-mai 1944, Staline a déclenché une offensive qu'on connaît depuis assez peu de temps, finalement très importante en Roumanie, et il s'est cassé les dents. Ça a été un échec retentissant. Et il s'est rabattu sur le nord, sur la Biélorussie.
Comment Staline peut-il se casser les dents? On va entendre un extrait d'un film qui exalte ses qualités de génie militaire. C'est un film de Youri Otenov. Osbodelnie, c'est la libération. La clairvoyance, l'autorité de l'incomparable maréchal Staline étant bien connue, on va donner la parole, si vous le voulez bien, à un autre maréchal, Vassilevski,
oui.
qui vient d'être blessé d'ailleurs.
C'est lui qui a libéré
Odessa peu de jours avant la période qui est évoquée ici, dans l'état-major de Staline. On le voit revenir... La tête bandée.
C'est l'autre grande
figure. Il a sauté sur une mine.
C'est l'autre grande figure de l'armée rouge avec le maréchal Joukov.
L'état-major propose de porter l'effort principal en Biélorussie. Cette direction, camarade Staline, comporte un certain nombre d'avantages. D'abord, le chemin le plus court vers Berlin passe par la Biélorussie. Ensuite, nous serons supportés par les partisans biélorusses. Comme vous le savez, camarade Staline, 270 000 partisans opèrent en Biélorussie. Enfin, après la libération de la Biélorussie, quand nos troupes feront étape en Pologne, elles seront accueillies par le peuple polonais qui combat depuis 5 ans l'occupant fasciste. Quand le haut commandement allemand réalisera qu'ici, en Biélorussie, l'attaque principale est portée, il déplacera ses réserves depuis le sud. Alors, le premier front ukrainien du maréchal Koniev portera son effort en direction de Lvov. Lorsque l'ennemi sera défait par cette puissante attaque, nous pourrons déployer notre offensive vers les Balkans, en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie et Hongrie.
Déjà, imaginez la multiplication des fronts latéraux, tout est pensé. C'est justement, à la différence de ce film de reconstitution et de propagande, dites-vous, la mobilité, la nouvelle adaptabilité du commandement soviétique qui fait sa force. C'est pas sorti tout armé comme ça,
non.
L'opération qu'on va décrire. Elle est pragmatique.
L'armée rouge a vécu un processus de renaissance extrêmement douloureux et très progressif entre sa quasi-nullité de 1941 et ses brillants états de service de 1944. Elle a, là, en 1944, elle est, au niveau opérationnel, supérieure à son adversaire. Au niveau tactique, c'est-à-dire sur le terrain lui-même, pas tout à fait encore à la hauteur, mais c'est largement compensé par la prodigalité de ses moyens.
Effet cumulatif, dites-vous, en matière d'aviation,
oui.
En matière de blindés, en matière d'artillerie.
Oui, l'aviation rouge est devenue enfin un outil efficace, après bien des tâtonnements. Les rapports de force sur le terrain en nombre d'hommes sont de 1 à 2 pour les soviétiques, de 1 à 8 pour les chars, de 1 à 6 ou 7 pour les avions. Il y a donc une marge de manœuvre extrêmement confortable. On peut voir loin avec un outil aussi puissant.
Alors la Biélorussie, on passe donc par Minsk. C'est un objectif, même si stratégiquement ce n'est pas extraordinaire. Alors, comme position, Vassilievski dit que... C'est favorable à Biélorussie, camarade Staline, parce qu'il y a plein de partisans. Vous ne croyez pas beaucoup aux partisans. Il y a quand même des partisans qui sont dans les marais, comme des scaphandriers. vous décrivez ça, mais vous dites que ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, il y a des marais.
Il y a des marais, il y a des forêts.
C'est un milieu, ce n'est pas ouvert comme
l'Ukraine. Ce n'est pas un endroit pour faire la guerre.
Hein, c'est un milieu amphibie. Actualité soviétique, de l'époque. Ces terres sont marécageuses et couvertes de forêts. Des terres fatales pour les ennemis de la Russie, célèbres depuis l'époque napoléonienne. L'avancée des troupes ici est problématique. Les marécages s'enchaînent sur des dizaines de kilomètres et il suffit d'une pluie importante pour qu'ils forment d'énormes lacs et des marais infranchissables. Les Allemands ont été sûrs de leur construction défensive cachée dans ces maquis. Plus d'une fois, ils fanfaronnaient, disant que les Soviétiques seraient incapables de forcer la ligne de défense et d'avancer ensuite à travers les forêts. Nos troupes avançaient irrésistiblement. L'allure n'a jamais faibli. L'ennemi est encerclé et acculé à la rivière Bérézina. 5 divisions allemandes sont encerclées.
Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs situent bien la Biélorussie. Vous avez remarqué d'ailleurs que le président biélorusse n'est pas invité aux cérémonies du débarquement.
À la différence de l'Ukrainien.
Mais la Bérézina... Ah, la Bérézina, on connaît. Et c'est pour ça que le nom de l'opération a été choisi. C'est pour évoquer le souvenir des défaites napoléoniennes.
Oui, l'opération de Biélorussie de juin-juillet-août 1944 s'appelle opération Bagration, du nom d'un prince géorgien, donc un compatriote de Staline, qui a affronté Napoléon pendant la grande invasion du même mois, du même jour, 22 juin 1812. Il est mort d'ailleurs au combat.
Comment voulez-vous que nous soyons de la même famille, Jean Lopez? Ça va très vite, dit cette actualité de propagande soviétique. Et vous expliquez qu'en effet, reconnaissance le 22, les choses sérieuses commencent le 23, la première semaine est décisive.
Décisive, oui. Staline avait dit que ce serait bien de mettre la main sur Minsk en 55 jours. Ce sera fait en 14 jours. Avec au passage la destruction de quasiment un groupe d'armées allemand entier. Les choses n'ont jamais été aussi vite, en effet, malgré un terrain épouvantable.
On a entendu le nom de Bobruisk. Dans la poche de Bobruisk se sont retrouvées encerclées 5 divisions allemandes.
Il y a eu plusieurs poches, ça c'est une nouveauté. C'est la poche de Vitebsk, où 5 divisions allemandes ont été anéanties. C'est la première fois depuis Stalingrad qu'une unité allemande n'est pas capable de se sortir d'un encerclement. Et il y a une deuxième poche à Bobruisk où une partie de la 9e armée allemande sera à son tour détruite, mais une partie parviendra à s'extraire malgré tout.
Il y a davantage de pertes du côté allemand dans cette campagne que du côté allemand à l'ouest.
Oui.
Les mêmes mois.
Oui, bien sûr. Bien sûr, les Allemands doivent défalquer seulement en Biélorussie près d'un demi-million d'hommes.
Alors, vous calculez le nombre des prisonniers. Et dès l'été 1944, a eu lieu une sorte de triomphe à Moscou avec un défilé gigantesque de prisonniers allemands.
Très étonnant. C'est un cadeau de Beria à Staline, mais Staline avait sollicité. On prend le premier paquet de prisonniers allemands, environ 57 000, avec les généraux en tête, ils sont plus de 25. Et on les fait défiler par 2 itinéraires à travers les rues de Moscou. Comme s'il s'agissait de permettre aux moscovites de croire maintenant réellement à la victoire, de voir que cette victoire est inéluctable. C'est un spectacle qui n'avait jamais été offert.
Cadeau du camarade Alexis Patochtev, qui collabore souvent avec nous pour les émissions consacrées à la Russie. Cadeau fait à vous, Jean Lopez.
Merci.
Voici une chanson, il paraît que c'est très rare, qui a été composée à l'occasion de ce défilé de prisonniers allemands. Cette chanson est accompagnée par le jazz orchestre de Biélorussie, sous la direction d'Eddie Rosner, qui est un personnage de légende, lui aussi le jazzman du goulag, parce qu'il s'est retrouvé plus d'une année au goulag.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
На полянке возле школы встали танки на привал, и гармошки зов веселый всю деревню вмиг собрал.
C'est un танquiste qui chante la montée dans son char. Il y a une pause et il rencontre une jeune fille au son de l'accordéon. Toutes les filles d'ailleurs tombent sous son charme. Il promet de revenir après la victoire.
Après,
курносенькой девчонкой он шутя заговорил. Подари мне на прощанье для твоих чудесных глаз. Предстоит нам расставание, мы на запад уходим сейчас.
Contemporaine de la bataille de Normandie, l'opération Bagration, camarade président Poutine le rappelle à Obama et à François Hollande aujourd'hui, et vous rappelez aussi l'importance, Jean Lepez, de cette offensive qui a commencé le 22 juin 1944 dans un livre que vous lui consacrez aux éditions Economica. Il faudrait qu'on regarde quand même comment se comportent les Allemands maintenant.
Avec leur acharnement et leur vaillance habituelle, surtout face à un ennemi aussi impitoyable que l'armée rouge. Mais malgré tout, il faut bien reconnaître que pour la première fois, des signes de désagrégation, d'effondrement du moral apparaissent côté allemand. Chose rarissime, il y a des redditions en masse qui n'arrivent jamais. On n'avait même pas vu ça à Stalingrad. Sur les arrières se répandent des centaines de milliers de déserteurs, de faux permissionnaires, d'hommes des services arrières pris totalement par la panique qu'il faudra arrêter manu militari aux frontières du Reich, reformer en colonne et renvoyer vers l'avant.
Il n'y a pas la même chose sur le front ouest, mais il y a les mêmes défauts de commandement sur le front ouest et sur le front est du fait de la centralisation chez Hitler et de l'entêtement de Hitler.
Hitler est chef de l'armée allemande, il est chef aussi de l'armée de terre, et depuis le début de 1942, il intervient pour déplacer la moindre unité, il faut son accord. Les réserves stratégiques, à savoir les fameuses divisions Panzer, ne peuvent bouger sans son accord en général. Donc c'est sûr que c'est un facteur négatif. Mais il y a quand même une grosse différence entre la Normandie et la Biélorussie. En Normandie, les Allemands n'ont pas les moyens de reculer beaucoup. Les frontières allemandes sont proches du nord de la France. Tandis qu'en Russie, en Biélorussie, ils auraient pu lâcher du terrain, gagner du temps, freiner les Russes et ne pas encaisser cette défaite.
Mais dans un cas comme dans l'autre, à ses généraux, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest, Hitler refuse tout repli. À Rommel et à Busch, à l'est. Busch, c'est le commandant allemand.
Le commandant du groupe d'armée centre. Effectivement, dans un premier temps, il refuse tout recul, ce qui va entraîner notamment la catastrophe de Vitebsk. Mais plus les semaines passent et plus Hitler se rend compte du désastre et plus il devient souple. Il y a un certain nombre de retraits qu'il va accepter malgré tout de ligne en ligne. Et puis Busch s'en va.
Mais ce Busch, vous le décrivez comme quelqu'un qui avait peut-être assez bien compris la situation, mais qui n'arrivait pas à convaincre Hitler et qui rentrait de chaque rendez-vous, de chaque téléphonage avec Hitler comme fasciné par le serpent, par les ordres qui lui avaient été donnés.
Il est totalement soumis, c'est un nazi intégral, il est totalement soumis à son Führer, il est incapable de prendre la moindre initiative qui aille contre sa volonté.
Ici nous sommes dans le film Valkyrie, dans la tanière du loup, au quartier général de Prusse orientale de Hitler, qui n'est pas là.
Messieurs, en premier point de notre ordre du jour, le général Fromm va nous exposer son plan pour la réaffectation d'une partie des troupes de l'armée de réserve sur le front de l'Est.
Les Russes ont lancé hier soir une offensive contre le groupe d'armée nord-Ukraine dans le secteur sud-Pologne. Ce matin, nous avons approuvé le transfert de 3 divisions pour renforcer les troupes du général Harper. Il est prévu que ces divisions assurent une mission de défense mobile.
Du front de l'Est, 30 jours sont passés depuis la grande attaque bolchevique. La guerre nous oblige à détruire ce qui fut laborieusement construit après la retraite soviétique. Le rapide recul de nos troupes à certains endroits n'a pas su désorganiser une défense toujours plus rapide et plus forte. Des réserves d'infanterie fraîchement enrôlées marchent vers le front principal. Malgré quelques défaites et la lourde fatigue physique, la force de nos vieux combattants de l'Est demeure intacte.
Actualité allemande, on est vers le 15 juillet. Vous voyez, ils ne sont pas découragés comme vous le dites, Jean Lepez, d'autant qu'ils vont toucher après Busch un chef dont vous faites le portrait comme étant l'un des deux grands oui. Allemands de la Seconde Guerre mondiale.
Avec Manstein, pour le Walter Model, me semble être de loin le général le plus efficace. Alors son génie, c'est celui de l'improvisation, et l'armée allemande en a vraiment besoin. Il est aussi l'homme qui sait faire passer les décisions dont Hitler ne veut pas. Ça, je pense qu'il n'y a pas de grand chef militaire qui n'ait l'oreille du dictateur. Hein. Dans un monde totalitaire, il faut avoir l'oreille du dictateur. Modèle là, il est impitoyable.
Recommandation pour avoir l'oreille du dictateur, si on a des recommandations à faire au dictateur, si on n'est pas tout à fait d'accord, ne pas le faire en public.
Et c'était son grand truc, c'était ne jamais le contredire en public, mais en tête à tête, ou au téléphone.
Et flatter Goebbels, on a l'air déjeuner avec lui de temps en temps.
Donc il a un carnet d'adresses bien fourni, c'est un homme qui n'a pas grand-chose à reprocher au régime nazi, il est très proche de ce régime qu'il a comblé d'honneur, mais il est sur le terrain, il est un type absolument redoutable, d'une efficacité remarquable, il saura...
Je traduis, vous dites redoutable, c'est celui qui sait se rendre invivable à l'égard de ses subordonnés.
Il est abominable, c'est un homme qui n'a aucune qualité de relation sociale, c'est certain. Oui. Il est abominable, mais il sait faire la guerre, il va le montrer en rétablissant une situation qui semblait désespérée.
Je vois ce que c'est qu'un type idéal pour vous, Jean Lopez. Alors, il est à la tête de plus grand chose, 12 divisions, on est vers le 15 juillet, quelques poussières en plus, sur 430 kilomètres. Il faut que vous nous racontiez maintenant que cette opération Bagration, dirigée d'abord sur la Biélorussie, elle va faire intervenir des fronts latéraux depuis la Baltique jusque très au sud.
L'opération Bagration, si elle est la plus célèbre, n'est pas la seule, ni peut-être la plus importante stratégiquement. Elle va déclencher à sa gauche et à sa droite deux offensives latérales qui vont être totalement dévastatrices. Au nord, une offensive qui va libérer laborieusement les pays baltes, et surtout au sud, une grande offensive en Pologne du Sud qui va amener les Russes à franchir la Vistule et à s'avancer sur le chemin de l'Allemagne.
Alors, premier point, les pays baltes. Là, l'ordre est donné par le général Tchernyakovski.
Oui, Tchernyakovski.
De prendre Vilnius. L'ordre est donné le 4 juillet. La prise de Vilnius a lieu mi-juillet. Alors, je sais que vous avez tendance, parce que vous êtes un homme qui aime les opérations stratégiques de grande envergure, à négliger le rôle des partisans. On a déjà eu l'occasion de l'entendre. Voici un partisan juif de la ville de Vilnius, qui s'exprime beaucoup plus tard depuis Israël, qui l'a rejoint. Il s'appelle Joseph Armatz. Il essaye de dire que les hommes comme lui ont eu un rôle dans la libération de Vilnius, qui est une libération tragique.
En 1944,
nous avons reçu l'ordre de nous préparer à l'assaut de Vilnius. L'armée rouge approchait par l'est et nous avions à fermer le côté sud. Quand les ordres sont arrivés pour attaquer, pour tout quitter et y aller, nous nous sommes organisés et nous y sommes montés. Lorsque nous avons atteint la ville, nous avons pensé que c'était possible de le faire, mais nous fûmes tout à coup pris sous le feu de l'ennemi. Nous sommes allés au ghetto, nous avons marché, pleuré, tout le monde a essayé de trouver sa famille. Les destructions étaient terribles. Il n'y avait personne à qui parler.
Jean Lopez.
Oui. Je suis là. C'est un témoignage très intéressant. Ce maquisard juif de Vilnius, la Jérusalem de l'Est, constate en entrant dans la ville avec l'armée rouge que des 40 000 juifs qui vivaient là en 1941, il ne reste plus trace. Ils ont tous disparu. Ce qu'il ne dit pas, c'est que la principale force de partisans qui va tenter de libérer Vilnius ne sont pas des juifs biélorusses ou lituaniens, mais des Polonais qui font une sorte de répétition générale de l'insurrection de Varsovie et ils vont se faire cueillir à froid par les Allemands, être obligés de reculer et les Soviétiques qui vont combattre quelques jours avec eux vont ensuite les désarmer puis les emprisonner. L'histoire est très complexe dans cette région de l'Europe.
C'est difficile de faire flotter de nouveau le drapeau de la République polonaise en exil. Deuxième front latéral, et c'est pas le moindre, celui de la Pologne du Sud. Alors là, il y a des objectifs politiques, on revient. C'est un point important de votre livre, au nœud polonais que vous décriviez déjà au début de l'émission.
Qui est le point essentiel. Staline veut absolument, et il est prêt à tout, y compris à une brouille majeure avec les Occidentaux, veut absolument contrôler la Pologne. Depuis un an, il déploie des trésors d'imagination politique pour court-circuiter le gouvernement polonais en exil qui se trouve à Londres et le remplacer par un comité qu'il va faire installer dans la ville de Lublin. Le premier objectif de l'offensive au sud de Bagration, c'est de libérer cette ville de Lublin pour y installer un embryon d'État polonais, évidemment totalement inféodé à Moscou et qui va être immédiatement en rivalité avec le gouvernement en exil à Londres.
Vous voyez qu'on n'est pas de la même famille. Obama s'est rendu, avant de venir en Normandie, en Pologne.
Oui, alors ça, c'est évidemment, quand on voit le problème... Si vous voulez, le problème, c'est le mot « libération ». Nous avons été libérés par les Américains. Ça veut dire deux choses. Ils ont libéré des nazis et ils nous ont apporté la liberté. Quand vous vivez à l'est de l'Europe, vous avez été libérés des nazis par les soviétiques, mais ils ne vous ont pas apporté la liberté. Je crois que l'ambiguïté sémantique du mot « libération » éclate selon le côté de l'ancien rideau de fer où l'on se trouve aujourd'hui.
Opération Bagration, votre livre, va jusqu'au bilan de l'opération. Quand 400, 500, 600 kilomètres ont été conquis. Mais le point le plus bas, en fait, en réalité, pour les Allemands, on va s'arrêter là, nous, c'est le 20 juillet.
Le 20 juillet, donc le jour où le colonel Comte Klaus von Stauffenberg dépose une bombe au quartier général d'Hitler en Prusse orientale, qui le blesse grièvement, l'attentat est raté, le coup d'État s'effondre. Ce qui est très intéressant, c'est que je montre les liens entre l'offensive soviétique et la panique qui saisit l'opposition anti-nazie qui décide de tenter tout de suite le coup qu'elle va rater, à savoir l'assassinat d'Hitler.
De l'autre côté, du côté ouest, on en est le 20 juillet à la guerre des haies. Il y a eu des tensions entre les chefs, une
entre
réunion très compliquée le 19 juillet. Il va y avoir un certain rétablissement allemand. Enfin, plus les alliés de la Grande Alliance des deux côtés approchent de la frontière allemande, plus les propagandistes nazis expliquent que ça ne va pas se passer comme en 1918. Ça va être bien pire, ça sera bien pire qu'une humiliation. La guerre va se porter sur notre territoire. Et ce sera l'anéantissement. Et ça mobilise des énergies allemandes en retour.
Oui. L'attentat du 20 juillet a eu exactement un effet contraire. Le peuple allemand s'est massivement soudé derrière son Führer, en qui il a vu le seul bouclier contre une destruction totale du pays. Et le redressement de l'armée allemande à l'automne 1944, qui est très spectaculaire, s'explique bien entendu par une mobilisation de l'énergie, par une industrie qui fournit des masses de matériel moderne. Encore, elle n'est pas détruite par les bombardements. Et puis, mais il faut quand même reconnaître que l'épuisement logistique des deux offensives occidentales à l'ouest et soviétiques à l'est ne sont pas pour rien dans ce rétablissement.
Mais pour nous, rétrospectivement, la guerre, elle est finie, là, comme ça, à ce moment où nous sommes, dans les commémorations. Elle aurait pu finir quand même en 1944.
Ça, c'est tout un débat que j'ouvre dans cet ouvrage et qu'on retrouvera dans le prochain dossier de Guerres et Histoires à paraître au mois d'août. C'est les Soviétiques auraient peut-être pu tirer un meilleur parti de leur supériorité en frappant un seul coup décisif, un gros coup de marteau au centre du front et en allant vers le nord. C'est ce à quoi s'attendaient les Allemands, c'est ce que les Soviétiques n'ont pas fait. Staline a privilégié la prudence à la vitesse.
Merci à vous, Jean Lopez, votre livre aux éditions Economica, consacré à l'opération Bagration, puis en collaboration, votre livre chez Perrin, consacré au maréchal Joukov. C'était il y a peu de mois. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec pour la préparation Frédéric Martin et Guillaume Georges, et à la technique Kevin Pelot.